Bonjour, 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 ici Bernard de Tea Time. Une nouvelle carte blanche encore aujourd'hui pendant Tea Time. Oui, c'est bientôt les vacances, il fait beau, c'est bientôt la fin d'année, on est tous presque déconfinés, enfin j'espère, parce que quand j'enregistre ça, on va bientôt avoir les nouvelles. Logiquement, je suis au bord de la mer, avec un masque bien sûr. Et puis, j'ai une amie qui s'appelle Emma Gonberg, qui connaît des tas d'artistes célèbres, et qui m'a envoyé une carte blanche. Donc elle m'envoie régulièrement, il y a Zouk Machine, il y a ce monsieur Richard, je sais plus comment, Richard Sanderson, je crois. Et donc, là, on va lui laisser la parole, et puis on se retrouve après. Allez, c'est à toi, Emma.
Bonjour les amis, c'est Emma Goldberg sur Radio Plus, conversation entre amis. Aujourd'hui, découvrons Richard Sanderson, sa carrière, l'homme, le compositeur. Nous allons ensemble découvrir tout ce qu'il a fait. Spécial Richard Sanderson, conversation entre amis.
Bonjour, nous voici en direct pour mon émission Conversation entre amis sur Radio Plus by Emma Goldberg. Bien, aujourd'hui, notre invité est Richard Sanderson, compositeur, chanteur très connu, et nous allons apprendre à découvrir toute sa carrière et tous ses titres. Bonjour Richard, on ne te présente plus, chanteur mythique du célèbre titre Reality. Comment vas-tu ?
Je vais bien, Emma, je te remercie, ça va bien. Et j'espère que tous les auditeurs aussi vont bien.
Nous allons aujourd'hui te découvrir, voir un petit peu ton monde de créateur, ton univers, ainsi que tes nouveautés, parce que tu as une actualité, tu as des nouvelles chansons. Et puis j'aimerais aussi que tu nous parles de toutes les compositions que tu as faites dans ta vie, ta vision de la musique, et puis un petit peu ton univers. Peux-tu nous dire d'où tu viens ?
Alors moi, je suis né en Angleterre, d'un père... écossais et d'une mère française.
D'accord.
Et mes parents se sont connus en Tunisie pendant la guerre. Et à la fin de la guerre, mon père est revenu en Tunisie chercher sa future femme. Il avait divorcé entre-temps de sa première femme en Angleterre. Et donc, ils se sont installés en Angleterre dans les années après-guerre. Et moi, je suis le deuxième de trois frères qui sont nés de cette union. Et j'ai vécu en Angleterre jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Mais ensuite, mon père est venu s'installer à Cannes. Et à Cannes, ça a été une révolution pour moi parce que je sortais d'un pensionnat anglais avec des règles strictes, tout ça. Et je me suis retrouvé sur la Côte d'Azur, qui est il y a pire comme changement.
C'est vrai, c'est vrai. En l'occurrence, c'est une belle région en plus, très ensoleillée.
C'est super, ouais.
Comment est venue la passion de la musique ? As-tu envie ou c'est un concours de circonstances ?
À vrai dire, c'est quand j'étais en Angleterre, le sport est très 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 important. Et moi, j'avais un problème de pied parce que j'étais un bébé assez grand et ma mère était une dame assez petite. Et donc, j'ai eu des chaussures orthopédiques. J'ai eu des problèmes, pas pour marcher, j'arrivais à marcher, mais pour faire du sport. Et comme ma mère faisait de l'accordéon et du piano, et du côté de ma mère, tout le monde était musicien, moi j'avais envie de me mettre au piano. Donc à 6 ans, j'ai commencé le piano classique. Et finalement, c'était un refuge, c'était un bonheur. Et puis c'est un truc où je mettais toutes mes émotions, je me réfugiais un peu dans la musique. Donc ça a été mon compagnon depuis toute ma vie, quoi.
Tu as commencé vers quel âge le piano ?
À 6 ans.
6 ans ? Très. Et par quoi tu as commencé ? Du classique, j'imagine ?
Oui, à l'école, il n'y avait que du classique, on n'avait pas le choix. Donc j'aimais beaucoup Bach, Chopin. Chopin, ça me faisait planer quand j'écoutais Chopin. C'est très romantique, nostalgique, très riche en harmonie. Et d'ailleurs, il y a deux ou trois valses de Chopin que je continue à jouer de temps en temps aujourd'hui. Donc c'est vraiment des musiques qui m'ont accompagné toute ma vie.
C'est magnifique, en plus c'est les vraies bases de la musique.
Ouais.
Et comment en es-tu venu à la chanson ? Parce qu'on voit tes études de musique qui t'ont amené vers des compositions, mais la chanson, comment elle est arrivée dans ta vie ?
Quand j'ai eu 14-15 ans, donc on était donc à Cannes, c'était l'époque des booms, tout ça. Mon père, il était fan des Beatles. Il revenait chaque fois qu'un nouveau 45 tours des Beatles. Ma mère, elle aimait aussi pas mal de chanteurs américains. Ce que je faisais, c'est que je retrouvais l'air au piano des Beatles. Et je le chantais, et ça faisait énormément plaisir à mon père. Je lui chantais Penny Lane, Eleanor Rigby, enfin les tubes de l'époque. C'était un peu pour faire plaisir à mes parents. Et j'ai rencontré des copains qui faisaient de la chanson eux-mêmes, qui faisaient leur propre chanson à Cannes. Et on a décidé de monter un groupe. On s'est mis dans un garage, on a commencé à répéter. et on a fait un premier concert au casino de Beaulieu, pardon, je devais avoir 15 ans, et on était en première partie de je ne sais plus quel groupe, et ça commençait un peu comme ça.
Et tu étais le leader finalement en devenant le chanteur du groupe.
Ah ben, au début, moi je n'étais pas le leader, moi j'étais le pianiste, j'étais assez timide, le leader c'était le Patrick Barbero, guitariste-chanteur. Et ensuite, j'étais surtout clavier, j'étais pas tellement chanteur, je faisais des chœurs, mais bien des années après, donc j'ai commencé avec un groupe, on a fait quelques disques avec un groupe de rock dans les années 70, et ensuite je suis parti comme géo, et là, lors d'une saison, le chanteur guitariste du groupe est parti avec une superbe dame dans une Porsche, et je me suis retrouvé sans chanteur, donc le bassiste et moi, on a partagé le répertoire qui nous restait, mais bon, on faisait les chœurs, on chantait un peu, et là, on a commencé à chanter tous les soirs, et le Club Med, c'est une très bonne école, hein, parce que tous les soirs, vous êtes sur scène, donc c'est l'école de la vie et de la musique en même temps.
Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Comment la proposition du titre Reality est arrivée? Quel est le chemin entre le moment où tu es dans ce groupe au Club Med et Reality? C'est quoi la continuité entre les deux?
Bon, au bout d'un moment, le Club Med, j'en avais marre parce que je savais que j'irais. C'était du confort, c'était une belle vie, mais ça ne menait nulle part. Donc, je voulais arrêter. Ils m'ont proposé d'aller faire la zone américaine, ce qu'ils appellent, c'est les Antilles. Donc, je suis parti en Guadeloupe. Et là, j'ai rencontré des Américains qui m'ont dit « Mais tu perds ton temps ». Donc, j'ai séjourné un peu aux États-Unis. Je me suis inscrit à Berklee College of Music pour apprendre un peu. Je voulais faire de la musique de film. Et puis, quand j'avais plus de ressources et mon visa était fini, ben, je suis quand même rentré à Paris. Et j'ai rencontré Gérard Berliner, le prof qui n'est plus là, qui lui m'avait fait rencontrer un éditeur un peu rock'n'roll qui s'appelait Pierre Jobert, qui n'est plus d'ailleurs aujourd'hui aussi. J'avais été le voir avec Berliner, lui il n'aimait pas du tout Berliner, mais il aimait bien ce que je faisais, il m'a demandé de lui laisser des maquettes. Donc je lui ai laissé des maquettes de chansons, alors moi je faisais des chansons et je les chantais sur les maquettes pour que les gens puissent écouter la mélodie, puisque déjà à cette époque, plus personne lisait la musique. Donc ça c'était en 78-79. Et en 1980, j'ai eu deux malchances qui se sont terminées en une grande chance, parce que je devais partir en Espagne avec un groupe où j'étais claviériste, et on s'est fait refouler à la frontière espagnole parce qu'on n'avait pas le carnet ATA qui était des papiers administratifs pour pouvoir passer avec du matériel en Espagne. Donc on s'est retrouvé à Perpignan, on a fait la cueillette des abricots pour payer notre retour, et je me suis retrouvé à Paris au mois d'août tout seul, sans boulot, ce qui n'arrivait jamais parce que on était toujours sur des tournées ou du bal ou des groupes où on accompagnait des chanteurs. Et là je reçois un coup de fil de Pierre Jobert qui me dit « Oh là là, si tu savais la chance que tu as d'être à Paris aujourd'hui, j'ai parlé de toi, j'ai fait écouter tes maquettes à Vladimir Kosma, il veut te rencontrer ». Donc le lendemain je vais voir Vladimir, il me donne la partition, il écoute, j'avais déjà coproduit un album avec des copains avec très peu de musiciens, mais bon, c'était quand même assez bien fait. Je laisse mon album à Vladimir, il me donne la partition. Je rentre chez moi, j'enregistre piano-voix sur un Revox, et je lui ramène ça au plus vite. Et il me dit, moi j'aime bien, mais il faut que je persuade quand même toutes les autres personnes qui ont leur mot à dire. Et ça s'est passé comme ça. Et plus ça allait, plus les concurrents étaient éliminés, et plus je m'en trouvais tout seul, voilà.
Et en fait, tu as été choisi, ça s'est fait naturellement. Oui.
Ben, dès le début, Vladimir, il y avait eu le tube de l'été 80, c'était les Corgis. Everybody's gonna learn sometime. Et moi, j'avais une voix proche de ce chanteur-là. Donc pour Vladimir, j'étais la voix du moment. Donc ça aussi, ça m'a aidé.
Bien sûr, il y avait une sonorité, il y avait une couleur, il y avait quelque chose qui était dans la tendance.
Oui, puis la chanson était en anglais, et moi, ma première langue, c'est quand même l'anglais, donc quand je chantais en anglais, ça sonnait bien.
Tout à fait. Et la rencontre avec Kosma, comment ça s'est passé? Coup de foudre artistique, raconte-nous ton histoire.
Dès le début, il avait beaucoup de respect, parce que bon, c'était quand même un grand bonhomme, je savais qui il était. J'allais voir ce monsieur qui avait déjà fait beaucoup de musique de film à l'époque, qui avait déjà beaucoup de succès. Et il me regarde et dit, vous savez, vous avez beaucoup de talent. Alors, venant d'un type comme ça, ça me dit, il doit avoir raison. Alors, on faisait des disques à l'époque, mais le problème qu'on avait tous, les artistes, c'était la promotion. Passer en radio, à la télé, tout ça, il n'y avait que trois chaînes ou quatre chaînes de télé, trois radios. Donc c'était carrément impossible. Et là, je me dis quand même, j'ai un film qui est derrière. Donc je me suis battu pour que je reste sur ce film-là. Bon, j'ai des anecdotes. Il y a Jobert m'avait dit, oh, il faut que tu refasses une maquette avec des cœurs, avec des armeaux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis revenu voir Vladimir. Il m'a dit, non, c'est pas du tout ça que je veux. Moi, je veux votre voix simple, juvénile, il me disait, sans chichi, comme ça, très simple, avec que des petites modulations que je me suis permis de mettre. C'est da pa 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 da. Voilà, des toutes petites trucs discrets qui donnaient du charme. Ben, au mois d'octobre, on est parti au studio Trident enregistrer les rythmiques. Et comme il m'avait dit qu'il voulait que ça sonne comme un groupe et non comme des musiciens qui lisaient la musique. Donc j'ai dit, il faut prendre des musiciens d'un groupe, les faire répéter et pas leur donner la musique. Donc c'est ce qu'on a fait. J'ai répété au studio Trident, qui est un super studio où Elton John avait fait ses disques et tout ça. Donc on a enregistré avec Barry Morgan, le batteur, Richie Hitchcock, le guitariste, etc. Et comme on répétait, ben, je la chantais. Et quand Vladimir est venu écouter les répétitions, il m'a dit, oh là là, il faut vraiment que ce soit toi, ça marche vraiment bien. Voilà, donc là, on m'a confirmé que ça allait être moi.
C'est génial. Qu'as-tu ressenti à ce moment-là?
Ben, moi, j'étais très content, parce que je m'étais accroché et que j'allais le faire, et j'avais vu le film quand même plusieurs fois, et je trouvais que le film était vraiment bien, parce qu'il y avait un rythme dans ce film. Il y avait des acteurs, que ce soit Denise Gray, Sophie Marceau, Bernard Giraudot, Claude Brasseur, Brigitte Fossé, tout ça. Je me suis dit, écoute, s'il y a une bonne promo, ce film va marcher, ça va faire du bien. Et le film, il n'a pas eu beaucoup de promotion parce que c'était quand même un film à petit budget par rapport à ce que faisait la Gobon. Et c'est uniquement le bouche à oreille. C'est les gens allaient voir le film et les jeunes, ils retournaient voir le film. Ça fait que les gens, ils allaient 2-3 fois voir le même film dans une salle de cinéma. Donc, les radios qui n'en voulaient pas et même les maisons de disques n'en voulaient pas. Personne n'en voulait. On nous disait, oh, c'est un slow, c'est en anglais. On était à la sortie de La Fièvre du Samedi Soir, qui était l'époque disco. Bon, il y avait quand même cette belle balade How Deep Is Your Love des Bee Gees, mais les radios ont été obligées de passer le titre parce qu'ils recevaient un courrier de gens qui voulaient. Et comme le single n'était pas sur le marché, bon, les gens ont commencé à acheter de l'album, mais ils ont réclamé le single. Entre Noël 80 et le Nouvel An, c'est là que ça démarrait en flèche. Quand moi, je suis rentré de chez mes parents pour les vacances de fin d'année, j'ai un copain qui m'avait laissé, on avait des répondeurs, vous savez, à cassette. Ouais. Écoute, Europe ou RTL, tu vois, et tac, je le mets et je tombe sur. Et je l'écoutais sur un tout petit poste. Et on dit souvent, quand on entend un mix sur un petit poste, on se rend compte de quelque chose qu'on ne se rend pas compte quand on écoute dans des gros bars. Il y avait cette réverb que ça avait été mixé à Paris par William Flageolet au studio d'Abou.
Grand ingénieur du son.
Ah oui, et grand studio. Oui.
Et grand studio.
Et au studio d'Avou, ils avaient cette réverb naturelle qui était une pièce qui servait de réverb. Mmh. Voilà, ils avaient un haut-parleur et un micro, ils se servaient de ça. Et c'est vrai que ça donnait une certaine magie.
J'ai une petite question très personnelle, une sur le passé, une sur le présent. Ça t'a fait quoi de découvrir le studio d'Avou? Qu'as-tu ressenti quand le studio d'Avou a fermé ses portes?
Moi, je suis retourné souvent à d'Avou puisque j'ai fait un autre album avec She's a Lady qui a assez bien marché aussi, mais qui n'était pas pareil. Oui, ça m'a fait triste parce qu'en plus, c'était un des derniers grands studios où on pouvait mettre beaucoup de musiciens. Il y a Studio Guillotel maintenant qui suit, et lui, c'est vrai qu'il était plus à jour. Chamberlain et Studio d'Avou, ils étaient un peu restés à l'ancienne. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas restés dans la course. Mais oui, c'est dommage. Mais vous savez, maintenant, avec le matériel, vous savez, dans les années 80, déjà, ils ont commencé à lancer ce qu'on appelle le home studio. Le matériel de home studio, il est né dans les années 80, avec les radios libres, tous ces départ de nouveaux talents, de nouvelles radios, c'était extraordinaire les années 80 pour ça.
Oui, je fais partie de cette génération qui en a bénéficié, et même si j'ai enregistré dans des studios parisiens aussi, j'ai démarré comme ça. Après, quand tu as commencé à voir ton nom partout, es-tu resté que l'image de ce titre ou as-tu continué à écrire à côté pour d'autres gens et à développer ta carrière de compositeur?
Moi, je me suis au départ concentré à faire un album derrière parce que j'avais un manager. Il me pressait pour faire un autre truc et moi je pensais non, tu sais, ça a duré longtemps. C'était numéro un, je pense, de janvier jusqu'à l'été. En plus, l'été, j'ai fait la tournée de Radio Monte Carlo en première partie des Eddie Mitchell, j'ai fait des tonnes de galas, c'était vraiment super. Moi, je suis toujours assez un peu lent à la détente. Moi, de toute façon, je me suis aperçu que j'étais connu plutôt l'année d'après, quand je suis allé en Italie, où en Italie, c'était la folie, carrément. Je ne pouvais pas sortir de l'hôtel. Il faut dire que le film, moi, on ne me voit pas dans le film, j'ai pas fait énormément de télé. C'est pas une chanson que j'ai fait 15 télés pour la faire connaître. C'est le film a fait connaître la chanson. Et j'ai commencé à faire des télés des mois après. Une fois que j'étais numéro 1 au bout de 2 mois, les télés ne pouvaient pas me refuser. Donc, par contre, en Italie, j'ai fait l'émission Dominica Inn, c'est un peu le Drucker italien de l'époque. Ensuite, il y a des tonnes de télés privées et pirates qui passent ça régionalement. En Italie, c'était... voilà, quand je sortais, il y avait une émeute, quoi. C'était ça. Bon. Mais je suis toujours resté la tête froide. Et c'est un peu mon caractère, ça.
Bien sûr, et je pense que c'était nécessaire dans cette période d'effervescence, je pense.
Ah ben il fallait, hein, parce que vous savez, après vous avez la pression. Bon, c'est vrai que Reality c'était tellement énorme que je sais que quand j'ai sorti She's a Lady l'été, ça a été boudé. C'était des grandes radios, les radios libres, bon, eux ils passaient. Après on me disait il faut faire autre chose, il faut faire autre chose, et je faisais plus rien à She's a Lady. Après j'ai fait un autre album avec les producteurs de Five Letters, je sais pas si ça te parle ça. My Sweet Dawn, ils avaient fait un tube, ils avaient une couleur, donc j'ai fait un titre avec eux qui s'appelait Sun, qui était assez joli, mais pareil, j'étais un peu boudé, je sais pas. Ensuite, on m'a dit, ben, il faut écrire pour les autres. Là, j'ai eu la chance de rencontrer La Roche-Valmont, j'ai écrit sa chanson T'as le loup coco, puis il était numéro 4. Donc lui il a cartonné. Après je suis redevenu un peu compositeur, fait des chansons pour d'autres personnes, mais quand même ma carrière allait en descendant. Ensuite en 2007, le film Reality en Allemagne avait eu un succès mitigé. Par contre, quand le film est passé à la télé en 1986, la chanson est redevenue numéro 1 en 87. Donc, je suis parti en Allemagne faire de la promo. Enfin, c'était déjà numéro 1. Et là, j'ai refait un album avec des producteurs que j'ai rencontrés à Munich, qui étaient très sympas. Et j'ai fait un album qui, finalement, n'est pas sorti en France, qui s'appelait Anytime at All. Par contre, il est sorti en Asie, et j'ai une chanson qui s'appelait When the Night Comes, qui était, je crois, numéro 5 au hit parade en Chine, Japon, par là.
Voilà. Oh, mon Dieu, quelle carrière!
Oui.
Quelle carrière, c'était important de le souligner. Moi, j'ai plusieurs questions là qui viennent, très sincèrement. La première, comment s'est faite ta rencontre avec La Roche-Valmont? Et la deuxième, qu'as-tu ressenti la première fois que tu as vu que tes titres étaient super bien accueillis en Chine? Parce que la Chine, c'est quand même un marché extraordinaire.
Oui, c'était... Bon, en Chine et au Japon, Reality avait été un carton aussi. Donc, ils attendaient un peu. Alors, pour l'histoire de la Chine, quand j'ai fait cet album-là avec les Allemands à Munich, là, au studio là-bas, bizarrement, l'album n'est pas sorti en France. Pourtant, on avait un titre qui était édité par des éditeurs français. Il dit, oui, ça va marcher, c'est bien. Bon, il n'est pas sorti. Il est sorti en Allemagne, il est... succès mitigé. Et un jour, c'était chez Warner, et il m'appelle, il dit voilà, on va vous préparer une tournée en Asie, et en même temps, on aimerait que vous tourniez un clip en Chine avec un réalisateur chinois. Et tout. J'ai dit bah oui, génial. Donc je suis parti en Chine, et j'ai tourné un clip sur cette chanson-là, dans des décors avec des dragons, des trucs. Vraiment, c'était génial comme expérience. Et j'ai fait une tournée avec la Corée du Sud, l'Indonésie, la Thaïlande, et cet album s'est bien vendu en Chine. Et enfin, dans toute l'Asie. Pour La Roche-Valmont, j'avais un copain qui est plus là d'ailleurs, Georges Pizzer, qui était mon photographe. Il faisait des très très belles photos. C'était un ami. Et un jour, il me dit, j'ai un copain qui est patron de presse, parce que lui, il faisait des photos pour des magazines aussi, des magazines sur l'automobile, tout ça. Donc, il me présente Jean-Quentin Gérard, donc de son nom d'artiste La Roche-Valmont. On était beaucoup sollicités par plein de gens qui voulaient faire des disques. C'est vrai que dans les années 80, c'était rentable de faire des disques. Pas comme maintenant. En plus, souvent, c'est des gens qui n'étaient pas vraiment des chanteurs ou qui n'étaient pas des très bons chanteurs qui faisaient des disques. En studio, on réparait ça, puis les télés, ils faisaient en playback, voilà. Donc, moi, j'étais un peu méfiant. Mais il m'amène ce texte, donc j'avais laissé ce texte à Le Loup Coco sur mon piano, et je passais devant, et un jour, je me suis dit, mais on dirait une pub, ça, t'as Le Loup Coco. Et donc, j'avais un copain qui était là, on a fait une tournerie groove, on a dit, on va faire un truc un peu dansant, et la chanson était pondu en 15 minutes.
Extraordinaire.
Ben, comme je dis souvent, celle-là, 15 minutes, et elle me rapporte encore aujourd'hui. Et j'ai des chansons, j'ai mis 6 mois à finir, et elles n'ont jamais marché, comme quoi.
Ah, c'est rigolo. Quand tu as présenté le produit fini, quelles ont été les réactions du chanteur et du reste de l'équipe?
Ah ben, ils étaient enchantés. J'ai été voir Gérard Bangalter, qui est le frère de Thomas Bangalter, l'oncle de Daft Punk, enfin producteur de la compagnie créole et tout ça. Lui, il était charmé. Et comme on voulait démarrer la promo par les boîtes, parce que la Roche-Valmont, personne n'était connu, on a été voir un gars qui s'appelait Philippe Renaud, qui avait une boîte qui s'appelait Pianola, que je connaissais, qui était un ancien chanteur, qui avait monté un label de musique de danse et qui marchait bien. Et pareil, ils ont dit « Ah, mais nous, on adore, c'est super ». Ils ont eu l'idée de faire jouer la rythmique par les Gibson Brothers. D'ailleurs, je suis triste parce que Patrick est décédé du virus il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, Christian et enfin Chris et ses deux frères, ils sont encore tristes et endeuillés. Mais bon, c'est eux qui ont fait la rythmique. Et quand je l'ai vu passer à Drucker, j'ai dit ça va cartonner, parce que la tournerie, on a également eu la chance d'avoir Patrick Blanc-Francard qui a mixé le titre, parce que c'est tellement important le mix aussi. Ça, c'est un morceau que je le fais encore dans les galas des années 80, je le fais en duo avec Sloan et ça marche très très fort.
C'est pas étonnant parce qu'en plus c'est un vrai tube et on aime cette époque où il y avait une chaleur dans les musiques, dans les chansons, même dans les textes, une sympathie, presque une insouciance d'ailleurs.
Absolument, t'as raison, il y a une légèreté et bon, t'as le look coco, c'est rigolo, on cherche pas à faire une philosophie, c'est un truc marrant, quoi.
Et c'était fédérateur en plus. Parce que ouais. ça nous avait plus ou moins unis. Il y avait un look à un moment donné, t'as le look coco. Il y avait un look dans les écoles et chez les jeunes de l'époque, si tu te souviens. Il y avait eu une look coco mania, si j'ose dire.
C'est vrai, et l'expression avait voyagé. Il y avait même un jour un journaliste qui avait dit à Georges Marchais, t'as le look coco.
Là, c'est l'expression qui s'impose.
Ouais.
Et après tout ça, comment as-tu organisé ta vie de compositeur et de chanteur?
Ça devenait de plus en plus dur. Comme chanteur, on commençait à m'oublier un peu. Bon, j'avais fait cette tournée en Indonésie, mais j'étais revenu très fatigué de cette tournée-là. Et ensuite, dans les années 90, j'avais envie de faire autre chose. Donc, je voulais faire de la musique de télé ou de cinéma. Donc là, j'ai commencé à me suis branché avec une boîte qui faisait des films institutionnels. Ils avaient besoin de compositeurs. J'ai commencé à bien travailler avec eux. Par cette société, j'ai rencontré Xavier de Fontenay et Geneviève de Fontenay, qui m'ont demandé de faire les musiques pour Miss France, ce que j'ai fait pendant 10 ans. Et Xavier de Fontenay, un jour, il a pris son téléphone, il a appelé Daniel Costel et il a dit « J'ai appris que tu fais une nouvelle série pour TF1 sur Les Oubliés de la Libération, il faut que tu prennes Richard comme compositeur. » Et Daniel disait « Mais non, mais c'est le compositeur pour les Miss. » Et Xavier disait « Mais non, il sait tout faire. » Donc, je suis allé voir Daniel Costel, il m'a expliqué ce qu'il cherchait. J'ai fait une maquette le week-end et je suis retourné le voir lundi avec un thème et il a été séduit et j'ai bossé avec lui pendant 10 ans. C'était super.
Oh, c'est génial, c'est vraiment génial. En fait, ta vie est une succession de rencontres.
Oui, avec des périodes, des traversées du désert aussi. Hein. Quand j'ai commencé à travailler avec Costel, je crois que c'était en 92, 90, 91, je me cherchais un peu, quoi.
Oui, mais tu as toujours su rebondir et tu as toujours su avancer et finalement fait les bonnes rencontres au bon moment.
On m'a toujours appris que c'est toi qui vas à l'arbre, c'est pas l'arbre qui vient à toi, comme on dit.
Visiblement, et dans ce que j'entends pour l'instant, tu étais toujours au bon endroit au bon moment.
Souvent.
Ça s'est pas joué à grand chose finalement.
Non, mais oui, c'est vrai, j'ai eu de la chance, mais aussi j'étais tenace. Et puis surtout, quand j'avais une occasion de faire quelque chose, je passais la nuit s'il fallait pour faire une bande démo, pour être sûr que j'avais donné mon maximum, que si jamais ils me prennent pas, ben c'est pas parce que j'ai pas essayé, mais c'est parce que j'étais pas ce qu'ils cherchaient.
Extraordinaire. Ça, c'est vraiment un très très beau témoignage. Et en général, comment arrives-tu à faire ces chansons et ces musiques sur commande? De quoi t'inspires-tu pour ces musiques sur commande?
Quand je travaille avec Costel, lui, il me faisait lire le scénario. Il me donnait pas trop d'indications. Mais je crois que entre un réalisateur et un compositeur, si on aime les mêmes choses, ça marche bien. J'ai travaillé avec d'autres réalisateurs de télé. On n'était jamais d'accord. Ça a été très difficile de travailler avec eux. Là, il y en a encore un ou deux avec qui je travaille aujourd'hui parce que je sais qu'on a la même vision des choses. Donc, ça va être agréable de travailler avec lui parce que quand on fait un truc qu'on trouve c'est super, il n'aime pas du tout, on se pose des questions. Et c'est toujours difficile de revenir. C'est facile d'y aller, difficile de revenir. Donc, moi, c'est tout ce qui est inspiration, ça vient d'émotion, je pense que c'est ça. Souvent, je vais me mettre au piano parce que c'est bon, le piano, c'est mon premier instrument. Enfin, j'ai fait de la guitare, j'ai fait d'autres instruments aussi, mais le piano, c'est, vous savez, vous avez toutes les notes devant vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au piano. Vous n'êtes pas limité. Une guitare, vous avez 6 cordes. Un piano, vous avez 88 notes. Hein. Donc, c'est où alors j'ai un thème qui me vient dans la tête. Et donc, dans ce cas, je vais jouer le thème et je vais l'harmoniser. Ou alors, je vais faire une suite d'harmonie et quelque chose va me venir. Moi, c'est comme ça que je travaille.
Et le piano, c'est presque visuel, finalement. Quand on a les 88 notes sous nos yeux, c'est presque visuel. D'un seul coup, instinctivement, on va aller vers certaines harmonies plus que d'autres, selon sa sensibilité. C'est propre à chaque compositeur.
C'est ça.
C'est un peu
c'est
le...
C'est exactement ça. Le piano, c'est mon compagnon de ma vie. C'est celui qui est toujours avec moi. D'ailleurs, moi, je joue au piano les yeux fermés. C'est comme Montagnier, on a tellement l'habitude que c'est la prolongation de nos bras.
C'est ton confident, comme le mien,
oui.
D'ailleurs. Comme le mien.
Oui, c'est un confident. C'est vrai que quand on est un peu blues dans la tête, eh ben, lui, il peut encore vous l'accentuer, le blues. Et il peut vous égayer aussi, parce que quand vous trouvez quelque chose de beau, ça vous fait tellement plaisir, ça vous égaye et... Même dans les périodes où on va pas bien, ben, le fait d'avoir fait une belle mélodie, ça vous remonte le moral.
Ah, ça c'est clair. C'est pas moi qui te dirai le contraire. Et entre 92 et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les thèmes que tu as pu écrire, les films, les musiques de films, les chansons que tu as eu envie de défendre, les thèmes que tu as... As-tu eu une liberté de composer, de composition, de chanter? Quels ont été tes moments forts?
Ben, dans les années 90, j'ai pas tellement chanté, j'ai pas tellement fait de chansons. J'ai fait quelques chansons pour des téléfilms dont une était chantée par Sandy Valentino qui était bien chantée. C'était un film sur la fête des mères et j'ai fait beaucoup de musique instrumentale pour Costel. On a fait je sais pas 15 ou 20 films en 10 ans. J'ai travaillé aussi sur la série Un siècle d'écrivains pour Bernard Rapp, donc je faisais, c'était extraordinaire. Je me rappelle, j'avais envoyé une lettre à un vieux copain des années 80, j'ai dit tu te rends compte, j'ai trouvé un milieu où les gens sont honnêtes, intelligents. Ils savent ce qu'ils veulent, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 80. Donc j'ai travaillé dans le milieu du documentaire et pour moi c'était une bénédiction parce que c'était moins prisé que la fiction. Les gens se battaient pas pour faire de voilà. Et puis finalement, comme c'était des bons, ils sont repassés souvent, rediffusés. Donc c'était quand même rentable au niveau droit d'auteur. Et également dans les années 90, donc j'ai eu mes enfants, 3 filles. Et au même moment, ce qui est marrant, c'est qu'on m'a proposé de produire des disques pour enfants. Et j'en ai produit, je pense, en 10 ans, 50 ou 60 CD avec une chanteuse qui s'appelait Liliane Davis, qui était la voix de Barbie à la télé et la voix de Charlotte aux fraises dans des dessins animés, qui est devenue une amie. Et on a produit, 60 ou 70 CD pour enfants jusque dans les années 2002-2003. Après, le CD a commencé à disparaître.
Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et après cette période, quels ont été les sujets qui t'ont inspiré en écriture, en chanson? Quelle a été la suite de ton opus, finalement, de compositeur?
Après, j'ai recommencé en 2003, j'ai re-signé avec Sony pour faire un album, mais c'était l'époque où on voulait qu'on fasse des compiles tout le temps. Donc, c'était des reprises. Donc, j'avais fait un album sur les plus belles ballades d'amour du cinéma chez Sony. Le problème que j'ai eu, c'est que j'avais un budget au départ pour faire l'album. Ensuite, on baissait le budget et on baissait. À la fin, j'avais pas vraiment le budget que j'aurais voulu avoir pour faire l'album dans les conditions que je voulais. Donc, je l'ai fait quand même. L'album n'a pas marché. Donc après, j'ai commencé à continuer la musique pour la télé. Et il y a eu, en 2007, le début des tournées des années 80, qui étaient lancées par Olivier Kéfer et Hugues Gentelet. Donc moi, j'étais dans les premières tournées. Ça, c'était vraiment sympa, parce que c'était tous les vieux compagnons des années 80 qui avaient perdu de leur ego, certains. Donc tout le monde était content d'être à nouveau sur ces tournées-là. Il y avait une ambiance formidable, vraiment de colonie de vacances dans le bus, et ça cartonnait. tous les zéniths étaient pleins. Les gens venaient avec leurs enfants ou leurs parents. Il y avait deux, trois générations. Il y avait ceux qui avaient acheté ces disques les écouter, et il y avait les enfants qui avaient entendu leurs parents les écouter. Et là, on s'est dit, bon, ça va durer quelques temps. Ben, ça, là, c'est interrompu à cause de ce qui se passe en ce moment. Mais moi, j'avais quand même 60 dates cette année.
Ouais.
Donc, entre Star 80, autour des années 80, il y a différentes tournées et les galas qu'on fait, des petits plateaux qu'on produit où on est 4-5 artistes. On est là content de voir les gens venir nous écouter et prendre du plaisir surtout. Donc du coup, en 2011, j'ai enregistré un autre album qui s'appelait Récréation. Alors ça, c'est un producteur qui m'avait dit, tu vas reprendre les titres qui t'ont donné envie de chanter. Donc j'ai repris les Beatles, Billy Joel, Elton John, enfin les groupes qui m'ont donné envie de chanter, avec des bons moyens, avec des musiciens, parce que je voulais faire un album avec des musiciens, pas avec des synthés, des séquences, quoi. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est sorti, ça a un petit peu marché, et dernièrement, j'ai fait un autre album, parce que ma boîte marche assez bien. J'ai trouvé d'autres marchés, notamment, c'est les parcs d'attractions et musées nouvelle génération. J'ai fait un truc pour Tiger World, qui est un spectacle de tigre pour le zoo d'Amnéville. J'ai fait un truc à Lausanne qui s'appelle Aquatis, qui est un musée pour sensibiliser les gens sur la richesse de l'eau douce et la préciosité de l'eau douce, tout ça. Donc c'est des gros chantiers où il y a 2 ans de boulot, beaucoup de musique, beaucoup de sons à faire, mais ça a bien renforcé ma société. Et donc en 2018, ma société m'a produit mon dernier album, qui je pense qu'il va être mon dernier, qui s'appelle How to be Elegant. C'est parce que quand j'étais sur les tournées, Jean Soutès, il disait toujours « Ah, voilà l'élégant qui arrive ». Il avait toujours un mot gentil pour moi. Il me disait « Oui, l'élégance ». J'ai dit « Vous savez, élégance, c'est un mot français que les Anglais ont pris quand même ». Voilà, donc, et cet album-là, c'est toutes les chansons que je n'ai pas sorties qui étaient dans mes tiroirs. Il y en avait 35. J'ai pris les 15 meilleures. Et puis, ça marche un petit peu. Bon, maintenant, ça passe pas sur les grandes radios parce qu'ils ont des playlists, ils ont plus le droit de passer ce qu'ils veulent. Mais ça passe sur certaines radios indépendantes. Et puis, grâce à Internet, j'en ai vendu pas mal dans les pays asiatiques comme la Corée, le Japon et l'Indonésie.
Et quel est le nom de ta société pour nos auditeurs?
Alors, c'est Gold Records.
Voilà.
Qui existe depuis 2003.
Ah, c'est extraordinaire. Et tu produis à travers cette société des musiques, des albums, des spectacles?
Alors, j'ai produit beaucoup de bandes son. Là, je travaille pour l'énergie atomique de Grenoble, par exemple. C'est des espèces de spectacles hors normes, des projections gigantesques avec des effets, des trucs comme ça. J'ai produit aussi un jeune qui s'appelle Enzo, qui a 12 ans, que je trouve qu'il a une voix extraordinaire. Mais c'est assez difficile, parce que maintenant, la musique est aux mains de grosses sociétés et de chaînes de télé. C'est difficile de faire connaître les jeunes. Et pour eux, c'est beaucoup plus difficile, à moins de passer par le circuit télévision, où là, après, on est un peu prisonnier de contrats assez sévères.
Bien sûr, bien sûr. Et j'ai écouté tes nouveaux titres que tu as eu la gentillesse de m'envoyer. J'ai adoré Follow Your Dreams, bien évidemment. J'ai adoré Hurry Up, qui m'a fait mourir de rire avec un humour absolument, j'ose dire, british, finalement.
Oui, c'est ça.
C'est un humour décalé. Et je me suis laissé dire que tu réalisais avec ta société tes clips aussi.
Oui, oui.
Alors, parle-nous un petit peu de ces nouveautés que j'ai écoutées, que j'ai adorées, qui m'ont fait voyager.
Quand j'étais au stade des maquettes de l'album, j'avais pas encore enregistré en studio. J'ai un copain qui a fait des films fantastiques avec qui j'ai travaillé comme compositeur. Je lui avais envoyé quelques titres et lui il m'a dit t'as un titre, on dirait un truc de James Bond. Je dis ben oui, figure-toi que dans les années 90 et j'ai découvert que à travers ma femme avec qui j'étais à l'époque, elle était une cousine éloignée de Pierce Brosnan. Et quand on a appris qu'il allait faire le nouveau James Bond, on a dit ben je vais lui envoyer une chanson pour lui proposer qu'il mette dans un film. Voilà. Il faut tout essayer. Et donc là, je ne sais pas s'il a jamais reçu cette chanson, mais c'est une chanson que j'avais fait un peu dans l'esprit Live and Let Die de Paul McCartney, avec un passage solo, un passage instrumental au milieu. Et cette chanson-là, je l'ai envoyée donc à ce réalisateur, il me dit on va faire un pastiche de James Bond. Donc lui, il est venu avec un scénario qui m'a plu, qui était beaucoup d'humour, puisque à la fin, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout ambitieux, il est à la retraite. Et quelques années après, j'ai rencontré Pierce Brosnan sur un tournage où j'ai appris qu'il cherchait des gens qui savaient jouer au golf et parler anglais. Donc, je suis allé 2 jours de tournage à Chatou, au club de golf, et j'ai tourné dans un film qui s'appelait Escroc pas trop, avec Emma Watson et Pierce Brosnan. Donc, je lui ai parlé et on a un copain en commun dont on a parlé, et il m'a dit qu'il n'avait jamais reçu la maquette, et de toute façon, il n'avait pas le pouvoir pour faire grand-chose. Il était déjà content d'être engagé pour faire James Bond. Donc j'ai dit, celui-là, je vais le mettre dans l'album, et Philippe Robert, on a tourné avec des effets spéciaux. On avait même une Aston Martin qu'un copain devait me prêter. Le matin du tournage, impossible de la faire démarrer. Donc on a été loué une Porsche, parce que dans un des James Bond de Pierce Brosnan, il roule en BMW. Enfin bref, il nous fallait une voiture comme ça. Et on a pu quand même boucler en 4 jours de tournage. On a tourné au château de Beauregard aussi, aux Ulysses. Donc on a fait un beau clip un peu à la James Bond. Ensuite, on a tourné avec on a fait un autre clip de l'espace. Alors moi, j'ai eu une grosse opération il y a 2 ans et j'avais un mois de repos, et j'ai fait un stage avec un de mes anciens élèves en chant, parce que oui, j'ai donné des cours aussi dans un conservatoire pendant 10 ans. Je donnais des cours de MAO, c'était très enrichissant, et un de mes élèves est un spécialiste des effets spéciaux, donc il m'a installé un programme qui s'appelle After Effects, et il m'a appris à m'en servir pendant le mois où j'étais confiné parce que j'étais en convalescence. Donc on a fait ensemble le clip dont tu parlais là, de l'espace, et ensuite j'ai tourné le clip dans une maison de retraite de Hurry Up avec des vrais retraités qui étaient ravis, parce que on avait quand même des comédiens avec nous pour faire le médecin, tout ça, et c'était des gens qui étaient tellement gentils. Ils ont fait des blagues, il y en a un, il a commencé à draguer les vieilles dames et tout, donc elles étaient tellement ravies. C'était vraiment un bon moment, ça.
Il y avait, j'ai reconnu dans le clip monsieur Marcel Hébeau, que je salue.
Ah, tu connais Marcel?
Un petit peu, oui. Très gentil, très très gentil.
Ouais. Il est génial.
Oui, très très gentil, et je le salue au passage. Les prochaines chansons, où est-ce qu'on va pouvoir les trouver? Hurry up, follow your dreams. Bien évidemment, on va en diffuser sur Radio Plus. Comment on peut te trouver avec tes nouveautés? Parce que tu n'arrêtes jamais, finalement. C'est plus une interview, c'est le fabuleux destin de Richard Sanderson.
Oui, écoute, j'espère encore continuer le temps.
Moi aussi.
On peut me retrouver par les pages Facebook. C'est quand même, on peut dire ce qu'on veut sur Facebook. Il y a sûrement des trucs bien, des trucs pas bien, mais c'est vrai que on peut vous retrouver et vous contacter n'importe qui dans le monde grâce à Facebook, donc c'est quand même bien. J'ai une chaîne YouTube, j'ai un site richardsanderson.com où j'ai plusieurs pages, j'ai ma société Gold Records, mon activité de chanteur, des nouveaux talents qu'on va essayer de produire aussi, et puis oui, Facebook, et puis ma chaîne YouTube, et en allant sur Facebook, si vous cliquez sur un de mes clips, vous tombez sur ma chaîne YouTube.
Voilà, tout simplement, c'était le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire pour terminer à tes fans?
Je vais toujours rester là à faire une musique que j'espère être gay, positive, plein d'espoir et diffuser du bonheur. Puis voilà, je ne suis pas prêt de m'arrêter, je vais continuer tout le temps de toute façon. Voilà. J'espère que tous nos concerts, comme la tournée Star 80 qu'on devait faire cette année, moi j'étais dessus, qui donnent vraiment beaucoup de bonheur aux gens. C'est un peu comme une messe, les gens ils viennent pour... Ils sont baignés dans les années 80, ils viennent habillés comme les années 80. Tout le monde a respecté parce qu'on est en live, mais on joue avec les mêmes sons que les années 80. Et je sens quand je vois le bonheur sur les gens, ou même dans les petits plateaux, même la boum, bon, c'est vrai que la boum, il y a des moments, j'en avais marre. Mais quand je vois le bonheur qu'il y a sur le regard des gens quand je chante cette chanson, je dis, voilà, au moins j'ai servi à ça.
Ça, c'est une certitude, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons aussi découvert le grand compositeur que tu es. Nous avons appris plein de choses, et je pense que tous tes fans vont te suivre aussi à travers tes nouvelles musiques, parce que personnellement, j'ai beaucoup aimé ce que tu produis en ce moment, ce que tu crées, et j'invite tous les auditeurs à te rejoindre et à, bien sûr, s'abonner à ta chaîne. Voilà, c'est la fin de Conversation entre amis spécial Richard Sanderson. Merci encore du temps que tu m'as accordé, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine session de Conversation entre amis by Emma Goldberg.
Merci Emma.
Merci à toi. Merci.
go to. This other different kind of life, a life that will lead you to a different world. What if we lose our love by living far away? That you were waiting for.
Radio Plus, à tout moment, par téléphone, au 09 52 22 22 07. Radio Plus, par mail, sur contact@radioplus.fr.
Et voilà, comme d'habitude, c'est déjà fini, le temps passe très très vite. Merci pour tes rencontres, pas des découvertes, parce que ce sont des artistes qui sont très connus. Et puis on se retrouve bientôt, nous, sur les antennes de Radio Plus, j'espère en septembre, tous ensemble, pour bien rigoler. Et puis pour l'instant, je vous laisse avec l'équipe d'après. Allez, bonne soirée, à bientôt, et puis à la semaine prochaine.
Tout s'accélère, c'est le boulement. Les grands gourous attisent les braises jusqu'à la dérive. Les grands gourous s'hypnotisent sous les flammes de notre sottise.
Devenir contagieux, t'as un mauvais karma. Devenir mendiant comme un koala.
Attendre que la pluie chante alors qu'on tire des feux d'artifice pendant que les forêts brûlent. Attendre que la pluie chante alors qu'on tire des feux d'artifice pendant que les forêts brûlent. Attendre que la pluie chante alors qu'on tire des feux d'artifice pendant que les forêts brûlent.
Même si tu veux pas voir, je serai là demain. Pas la peine de me faire une. Là je craque, je sens que je vais finir là. De toute façon à toi je ne te manquerai pas.